Parlons-en sans tabou avec le rave Shalom Guenoun.
Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Parlons-en sans tabou. Avec vous, je suis Shalom Guenoun et ensemble, nous débattons des sujets du judaïsme. Des sujets délicats, sujets qu'on pense tabous, et avec pour devise toujours de les soumettre à la critique rationnelle. Pour nous poser vos questions, vos commentaires, je vous rappelle l'adresse radio@torah-box.com. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous pensez tabous, justement celles-là. Nous tâcherons d'y répondre suivant nos connaissances et si nous ne les avons pas, nous irons chercher, puiser dans la Torah elle-même, à la source des sources. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on ouvre le débat sur la culture goy. J'entends culture goy par la culture non-juive, tout ce qui n'est pas de chez nous, en quelque sorte. Culture occidentale, orientale, etc. Je voudrais savoir si c'est compatible avec la culture juive, avec notre éducation, notre derechaim, notre chemin de vie. Est-il lieu de s'en méfier, voire de s'en préserver parfois? Si oui, pourquoi? Surtout, existe-t-il une culture juive? Si oui, laquelle? Alors restez avec nous, nous essaierons de décortiquer le sujet. Je vous retrouve après une courte page de pub et nous rentrerons dans le gouffre d'avoir, comme on dit, dans le cœur du sujet.
On se retrouve tout de suite pour parler sans tabou avec le rave Shalom Guenoun.
Organiser un cours avec un rave de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone. Une question de Halakha, besoin d'un conseil personnel, avec le service Question au Rav, les Rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24h sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des Prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée Juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir.
Alors, travailler le Gan, c'est la sauce de la Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le Gan? C'est l'ichement, mitzvotah, de garder les mitzvot.
Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.
Parlons-en sans tabou avec le Rav Shalom Guenoun.
Parlons-en sans tabou. Sujet du jour, comme je l'ai exprimé au début, c'est la culture goy, la culture non-juive. Plus exactement, savoir si la culture goy est-elle compatible avec la culture juive. Tout d'abord, définissons bien les choses. J'appelle culture goy tout ce qui n'est pas culture juive. Et nous essaierons, si Dieu veut, de définir quel est le propre de la culture juive, notre culture. Donc, n'y voyez pas une quelconque discrimination que ce soit. C'est une appellation. La culture occidentale, mais comme je ne veux pas limiter à l'Occident, mais je veux aller à l'Orient, toutes les autres strates de la culture, appelons-le la culture goy. En tout cas, quand je parle de culture goy, je parle évidemment de Hollywood, des Jeux Olympiques, les JO, de Wall Street, avec le Dow Jones, etc. Toute la culture des affaires. La communauté scientifique aussi, qui a sa culture, sa façon de penser, ses croyances. Et bien sûr, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, etc. tout ce qui forme la toile de notre vie, ce avec quoi nous sommes confrontés au jour le jour. Que ce soit dans la télé, dans les journaux, dans la mode, tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous enveloppe, cette culture-là, dans laquelle chacun implique, chaque tranche de ces cultures évoquées implique des personnages, des facettes, implique plein d'autres choses, l'identification, du savoir-faire parfois. Voilà. Donc essayons d'abord définir la chose le plus objectivement possible, de passer en revue toutes les sortes de cultures qu'il soit, les facettes, et voyons si c'est compatible avec nous, si c'est compatible avec notre chemin de vie, avec nos aspirations, si c'est compatible avec notre judaïsme, en deux mots. Combien de familles sont assises le soir devant leur poste de télé, devant Franny Fine ou Ed O'Neill dans Marie et les enfants, partageant un bon moment de détente familiale autour de la table? Quel message ces séries nous véhiculent-elles? Qu'est-ce qu'elles nous transmettent? Alors rien de bien méchant, me direz-vous. Mais à la longue, moi je vous le demande, ne crée-t-elle pas une identification à leurs valeurs, à leur mode de vie, à leurs aspirations, l'aspiration de nos héros? Quand on regarde le prince de Bel-Air avec son humour, ne sommes-nous pas tentés afin de le reproduire? Leur mode de vie, leur style d'habit, leur style de maison, leur décoration? Combien de parents ont appelé leur enfant Jarod en l'honneur du caméléon? Dites-moi, moi je les ai connus. Combien de jeunes garçons ont mis des coups de pied en l'air après un film de Van Damme? Combien de jeunes filles ont écourté leur jupe malheureusement à cause de Carrie Bradshaw? Combien se sont mis à fumer parce que c'était fun après avoir vu Requiem for a Dream? Malheureusement, l'influence que nous captons, que ce soit nous, que ce soit nos enfants, rentre au travers d'un moment de détente, d'un moment plaisant, et dans lequel l'influence rentre sans crier gare. Donc tous nos systèmes de filtres, de critiques, sont en fait inactifs et sont en fait vulnérables au travers ces moments de partager parfois en famille avec sous l'autorité de papa, sous la jupe de maman, sous la houppe de maman, et on remarque pas en fait, et on absorbe des images, on absorbe des faits, on absorbe des situations, des événements. On veut les reproduire. On s'imagine qu'ils sont, même si on sait qu'ils sont faux, fictifs, mais on les projette. Et quand ensuite on dort le soir, c'est pas la sugya sur la Mishnah qu'on a étudiée au Beit HaMidrash qui nous taraude, comme ce que ça devrait être, comme la Gemara dit dans Brachot Daf Hey, Talmidei Chachamim, ils dorment avec leur sugya dans la tête. Non, c'est la dernière bataille du dernier samouraï, où on voit Tom Cruise avec son sabre, c'est le prince charmant. C'est ses filles qui s'endorment avec Brad Pitt, avec sa mèche comme ça et son costume bleu de Joe Black. Et c'est pas Yoisale Stern qui est assis au Beit HaMidrash avec son travail sur ses midot, sa compréhension de la Torah, sa vérité, le fait qu'il disent tout le temps la vérité et qu'il soit un homme de Emmet. C'est pas lui tout d'un coup le prince charmant. Les valeurs sont détournées. C'est cette influence fictive où le cadre est attirant, frais, apparemment frais, jubilatoire auquel l'homme s'identifie peu à peu, s'éloignant de la réalité telle qu'elle est vraiment avec ses hauts, ses bas, ses épreuves et ses désillusions. Une réalité où pour tirer profit, il faut s'efforcer. Une réalité où le travail est la vérité, l'étude, où rien ne va de soi, rien n'est facile, car justement chaque effort est salutaire, Dieu en a voulu ainsi. Et là on voit un monde où tout réussit, où les lois de la gravité sont complètement mis au placard. Si vous voyez des films de science-fiction où des choses complètement abracadabrantesques arrivent, et les gens, même s'ils savent que c'est faux, quand ils sont au volant de leur voiture et qu'ils s'imaginent, parce qu'ils ont vu juste à l'instant le Fast and Furious, et qu'ils s'imaginent en train de conduire, ils peuvent être dangereux, inconsciemment parlant. Quand Yamakasi est sorti à l'époque, on a vu dans les informations que des jeunes ont essayé de grimper sur les murs et les immeubles, et certains sont même morts, essayant d'imiter leur héros. Alors, à part l'influence sous-jacente des personnages fictifs qui s'imprègnent dans nos consciences, dans notre inconscient surtout, et façonnent nos rêves et nos ambitions, nous avons tendance à accorder aussi de l'importance au jugement de ces stars du grand écran. Nous sommes tellement habitués à eux, ils nous ont tellement fait rire, qu'après tout, ça doit être des gens bien. On s'est familiarisé avec eux. Il y en a qui ont plus vu Christian Clavier derrière leur écran que leur propre oncle. Alors leurs idées, leurs opinions, leurs valeurs nous sont véhiculées par la presse et nous gobons, ingurgitons leurs opinions qui viennent de gens du spectacle sur, par exemple, le conflit israélo-palestinien, la vie après la mort, la fidélité dans le mariage, et nous voici influencés. Mais je vous demande, d'où eux-mêmes ont-ils tiré leurs valeurs? Les ont-ils savamment pesées pendant des années comme le ferait des rabbinim à la yeshiva, ouvrant les textes, la réflexion, tant philosophique que scientifique que logique? Leurs valeurs sont-elles le fruit d'une réflexion pure, ou bien leurs valeurs elles-mêmes sont le fruit d'une ambiance culturelle qui leur a été eux-mêmes influée au travers de ce que la société prend comme tendance et comme tangente? Mais nous sommes toujours touchés par ce Justin Bieber qui parle hébreu, ou cet Ivana Trump qui s'est converti au judaïsme pour Jared Kutcher. Alors, nous tentons de trouver un peu de nous en eux, dans leur comportement. Que nos traditions vivent dans le prisme de leur existence. Justin Bieber, il parle hébreu. Il a dit Shema Israël à une de ses fans en hébreu. Attends, on n'en est pas là quand même. Je vous demande, quelle vidéo serait la plus vue? Celle de voir le Rav Yitzhak Yosef Shlita, qui s'exprimerait sur les fêtes, expliquant la profondeur des mohadim, des fêtes de Rosh Hashanah, de Kippour, de Sukkot, de Pessah, ou l'ancien joueur de NBA converti à Mar Studemir, qui expliquerait l'importance de Kippour. Alors je ne remets pas du tout en question leur conversion, je ne sais pas qui, ni comment ils ont été convertis, je sais que les convertis sont grandement considérés dans la Torah, moi personnellement je les adore, c'est injaugeable, leur sacrifice, leur amour de la vérité, le fait d'avoir lâché tout un monde de fumistes, tout un monde de éphémères pour aller vers la vérité dans un peuple qui est haï de par le monde. Nous qui sommes juifs, nous assumons notre judaïcité. Mais eux, t'aurais pu être un bon gars comme ça. Donc c'est pas sur le fait qu'ils soient convertis que je parle. C'est le fait que c'est une ancienne star de la NBA qui fait que tu l'écoutes. Mais le Rav Yitzhak Yosef Shlita, Talmid Chacham, fils du Gdolador de Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha. Bon, on a entendu. Ne sommes-nous pas endoctrinés par une non-culture qui s'étale sur nos écrans sans aucun discernement de valeur? Ne sommes-nous pas gavés de ces images et de cette culture qui en réalité ne l'est pas, car elle est... C'est un flot narratif comme ça de ce que la société met en place pour nous convaincre de telle ou telle approche qui revêt tel ou tel intérêt, tant sociétal, tant économique, ou tant de l'ordre du divertissement. Mais encore une fois, il n'y a pas que la culture d'Hollywood, la culture hollywoodienne qui influence les gens. Toutes les cultures influencent, toutes les cultures séduisent et fascinent au point d'en prendre pour piller ces modèles. L'éco-marketing l'a bien compris et s'en sert à notre insu quand elle met à l'affiche des gens comme André Agassi pour la pub de Gillette Mac 3. Vous pouvez m'expliquer quel rapport entre le rasoir et le tennis? Le seul fait commun que je vois, c'est qu'ils se tiennent tous par la main. Au-delà de ça, dites-moi en quoi Zidane, qui boit de la Volvic, est plus... a une plus grande justification, a une plus grande validité de présenter le fait de boire de la Volvic que tout un chacun. Mais c'est Zidane qui boit de la Volvic. Ah. Elle revêt un caractère autre, cette Volvic. Alors on écoute leur interview à la radio, on suit leur match à la télé, et on s'évade avec eux, spectateurs de leurs rêves. Combien d'enfants ont entendu l'arrogance de Cristiano Ronaldo? Combien ont vu le coup de tête de Zizou? Je dis le coup de tête de Zizou, mais je ne l'ai pas vu alors. J'espère que les informations que je détiens ne sont pas faussées. En tout cas, si c'est vrai, on a adulé une star, papa, maman, tonton, et voire même papy, et le petit de 5 ans qui se voit à la télé en train de voir cet acte de violence auquel on n'a pas réellement remis en question. On a dit, Jésus, c'est un mec celui-là. Mais quelle trace la laisse-t-il en nos enfants, et parfois même en nous? Cette culture du divertissement qui, plus que de nous divertir, nous domine, nous dicte une conduite de vie tellement loin des valeurs de la Torah où pour nous, l'orgueil est banni. La violence est accablée. Les mœurs restent toujours pudiques. On n'en parle pas. C'est milta de tzniouta. C'est des choses qui sont l'ordre de la tzniout. On dit vayeda, Adam et Hava. Il a su sa femme. C'est comme ça que la Torah en parle. La moquerie chez nous est défendue. Regardez tous les présentateurs de télé aujourd'hui qui sont les plus connus. Par quoi ils sont connus? Par le niveau de raillerie qu'ils arrivent à mettre dans leurs phrases, au travers de leurs interviews. Mais chez nous, mais on n'en est pas là. Nous sommes des gens moraux. Alors la question, existe-t-il une culture goy? Je répondrai par l'affirmatif. Il y a une culture goy qui a des valeurs qui ne sont pas les nôtres. C'est sûr. Quant au fait de savoir si elle est compatible avec la Torah, avec un chemin de vie dont la construction est la grandeur d'âme et la finesse et la délicatesse d'esprit, je vous laisse en être les seuls juges. Ne nous quittez pas. Nous vous retrouvons après un peu de musique, juive cette fois-ci, et nous continuerons notre recherche pour le moins culturel.
מבית ומחוץ מקשה אחת זהב אין בו מן השפה ולחוץ ולא מאחורי הגב זך וטהור מושך אליו את האור בלא משים מבית ומחוץ כמו שרק האל יודע וזה פלא עצום מעל כל השגות הטבע ומי שיצא אל האור עומדים כאן בתור מלא ניסים וכל העולם עכשיו לא נברא אלא בשבילו מבית ומחוץ מקשה אחת זהב אין לו נימה ולאן לרוץ כל כך שלב עכשיו וככל שאני מוסיף להבין אין בי מילים כי כל העולם עכשיו
Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes sur le plateau de Parlons-en sans tabou, l'émission qui parle de tout sans tabou. Avec vous, je suis Shalom Genoun, et pour nous joindre, nous poser vos questions, vos dilemmes, vos questions à traiter, radio@torah-box.com. Nous avons posé la question de savoir aujourd'hui si la culture mondaine serait compatible avec la culture juive. Nous avons énuméré une facette de cette culture la plus populaire, celle de l'audiovisuel, le cinéma, la radio, Internet, les réseaux sociaux, qui sont devenus les leaders en matière de culture loin devant la littérature et les arts, c'est pour ça qu'on a commencé par eux. Nous avons évoqué l'influence que cette culture peut exercer sur nous, l'identification qu'elle entraîne quasi indéniable, quasi automatique, voire. Nous éloignons de fait de nos valeurs fondamentales, et ce, tout en douceur, tout en divertissement. Quand Yaakov a prié à Kadosh Baruch Hu, « Atzileni miyad achi miyad esav »« Sauve-moi des mains de mon frère, des mains d'Esav », il a dit deux choses. « Sauve-moi des mains de mon frère et des mains d'Esav ». Même s'il se veut être mon frère, s'il vient avec moi, s'il vient pour moi en me prenant dans les bras, les bras ouverts, « Viens, mêle-toi à ma culture. Regarde, c'est bien, c'est inhibé, c'est émancipé. Viens. » Et Yaakov a demandé à Hachem, « Protège-moi. » C'est-à-dire que je sache où est ma place. Je sache ne pas me faire influencer, ne pas me faire téléguider, dominer par un monde bas où les instincts sont exacerbés qui en réalité ne comportent pas la réelle profondeur auquel mon âme a besoin, auquel mon âme aspire, la réelle profondeur que je cherche. Tzileni miyadachi, et après miyadessav, et sauve-moi aussi de celui qui est le tueur sans merci, Esaü, Esav. Mais d'abord mon frère, et après Esav. D'abord, on demande d'être protégé de la culture comme ça, de l'influence en douceur, enveloppée dans un papier de bonbons, un petit chocolat, et après, celle du tueur. Parce qu'une est plus dure et plus dangereuse que l'autre, elle est plus sournoise. Personne n'a jamais vu James Bond prier Dieu pour qu'il le sauve de ses ennemis, n'est-ce pas? Dit Don Juan, se dire que peut-être que son comportement était amoral après tout, c'est immoral de faire ça. Et donc nous écoutons et nous voyons une scène, a priori, d'un homme qui vit traversant plein de choses sans avoir Dieu dans sa vie. On peut voir cinématographier un homme de 0 à 70 ans sans mentionner une quelconque fois Dieu. Donc ça nous donne une fenêtre. Ben, c'est possible de vivre comme ça. Évidemment que nous sommes adultes et nous avons du discernement et nous savons revenir à la réalité. Mais à terme, combien d'études scientifiques ont montré que l'aspect fiction agit inconsciemment sur la réalité d'une manière tellement profonde et tellement corrosive, tellement transcendante que parfois l'homme se voit conditionné par des envies, des buts et des passions qu'il ne retrouve ni dans sa famille, ni dans sa vie. Les seuls à en être le vecteur sont son écran. Nous n'avons jamais entendu Mike Tyson remercier Dieu après un combat. Lors de ses interviews en backstage, ni un homme d'affaires prélevait systématiquement son pourcentage, son maaser, sur ses revenus pour entretenir les pauvres. Vous trouvez ça que chez les juifs. Dans la culture, telle que nous la connaissons du XXIe siècle, c'est me, myself, and I. Et Dieu, dans tout ça, ben, on verra après le match. C'est pas ce qui occupe. Mais si la culture de chemise est certainement antinomique avec les valeurs de la Torah, la culture littéraire l'est encore plus pour moi. Selon moi, c'est ce que nous allons voir. Profondément chrétienne jusqu'à la pré-guerre mondiale, la culture littéraire bascule, après l'avènement de la philosophie existentielle, dans un athéisme exposé, dont le divin est soit absent du monde des hommes à la façon Spinoza, ou inexistant, à Dieu ne plaise, à la façon nietzschienne. Alors c'est Marx, Hobbes et les autres qui dominent, qui donnent au matérialisme une dimension historique, ou Flaubert qui résume la vie à de la prose bien tournée, harmonieusement bien chantée, et rien d'autre. C'est dire la superficialité et surtout l'envie de ne pas voir. Zola aussi présentait souvent des personnages, souvent voire toujours, des personnages déterminés par leur hérédité, leurs instincts et leurs conditions sociales. Rien dans la société ne leur permettait d'échapper à leur passion bestiale et à la déchéance morale qu'ils étaient soumis. Il n'y a pas de libre arbitre. Et quand on lit ça sur 300 pages, sur 500 pages, et ben on se dit que ben, peut-être que l'homme est aussi un fruit du sociétal, de la société, de l'environnement, et il ne peut pas s'élever au-delà d'eux, alors que la Torah nous dit clairement « Tu as le choix, j'ai mis devant toi la vie et j'ai mis devant toi la mort. Choisis la vie. » Albert Camus, lui aussi, fait à sa manière cette expérience de l'absurde de la vie, marquée par la limite inexorable d'une mort qui n'ouvre vers aucun au-delà, à Dieu ne plaise. C'est des auteurs dont la pensée intellectuelle était émue par une réaction à l'Église, qu'il voyait comme un un danger à la science qui émergeait. C'est vrai, et ça l'était, seulement que la Torah, avec tout ce qu'elle comporte de connaissances astronomiques, scientifiques, ne l'a jamais été. Et ce conflit-là entre science et religion, qui s'est vu au travers l'intellectualisme, n'aurait jamais pu avoir lieu si la religion dominante était celle de la Torah. En tout cas, des interdits religieux mal compris, de la souffrance de l'humanité en convalescence d'une guerre qui déchira la valeur de ces auteurs qui étaient autrefois chrétiens ou croyants, en tout cas, a justifié leur narration comme ça, corrosive et anti tout ce qui représentait la religion. Donc de la littérature, il n'y a à peu près que de l'hérésie et de l'impiété. Je ne dis pas que tous les auteurs sont comme ça. Vous avez des René Descartes, vous avez des Voltaire, des Victor Hugo, et encore d'autres outre-Atlantique, qui étaient croyants, mais leurs croyances et les nôtres sont tellement loin, tellement différentes. Si le peuple juif est un peuple rationnel qui croit en Dieu, comme le verset le dit, « Veya data hayom », et tu as su aujourd'hui, du terme du savoir, ces croyants, ces auteurs croyants, sont plus des croyants que des sachants, contrairement à nous. La croyance, une fois, est souvent sans preuve, excepté peut-être René Descartes, qui prouve l'existence de Dieu par plein de preuves ontologiques. Mais encore une fois, c'est très très loin de nous, très très loin du Rambam, du Rabbeinu Saadia Gaon, très très loin du Kuzari, dans lesquels la croyance est démontrée philosophiquement parlant, logiquement parlant, et avec toutes les preuves du peuple juif qui sort et qui voit des miracles haut en couleur. Alors il y a aussi la culture de l'âme, la psychologie, dont on n'aurait a priori pas trop de raisons de se méfier. Et pourtant, Freud a basé toutes les théories de ses analyses comportementales durant plus de 40 ans sur des cas qu'il a observés, qui l'ont fait arriver sur certaines conclusions. Le problème, c'est qu'il était aussi fumeur de cocaïne pendant tout ce temps-là. Donc ces travaux expérimentaux sont en réalité teintés d'une subjectivité toute particulière, et on peut pas faire autrement. Hein. Quand on fume de la cocaïne pendant 40 ans et quand on écrit un livre vantant ses mérites, Hubert Coca, le livre noir de la psychologie comme il s'appelle, on ne peut pas dire que le discernement vu au travers les patients revêt une objectivité totale et froide. C'est-à-dire que tout dépend d'un homme qui a fait ses observations, mais lui-même était un homme drogué, donc il n'y a pas tellement d'étonnement à comprendre que la conséquence de toutes ces observations débouche sur un exhortement des passions et que tout tourne autour du sexe et des mœurs, et que l'homme n'a que ça comme but et il ne se préserve que de ça et va vers ça sans libre arbitre possible. Des travaux qui sont continués par ses élèves, Jung, etc. Et tous les autres théoriciens qui ont suivi les grandes lignes de Freud, hein, c'est pareil. Jusqu'à ce que chacun en ait de ses propres théories plus subjectives et fallacieuses les unes que les autres. Quand on veut comprendre l'âme, on va voir les chachamim, les sages qui ont reçu le mode d'emploi de celui qui a créé l'âme, Dieu. Prenez par exemple une théorie, celle de Melanie Klein, par exemple. C'est une théorie qui est acceptée comme une théorie valide dans le monde. Mais je vais vous exposer la théorie et nous allons essayer de l'analyser ensemble pour voir à quel point elle revêt une subjectivité dont on peut largement émettre un doute sur la validité et la véracité des propos de cette théorie. Melanie Klein dit que tout le développement émotionnel chez l'être humain se joue entre 0 et 12 mois. L'enfant a un conflit avec le sein de sa mère, qu'il perçoit comme ou tout bon ou tout mauvais. S'il le considère mauvais, suivant le fait qu'il ne reçoit pas ce dont il a besoin, par exemple, donc il le considérera mauvais, le sein ne lui donne pas son apport, ou même ce que le bébé perçoit de lui-même. Il peut percevoir, on ne sait pourquoi, le sein de sa mère comme étant hostile. Donc il se voit lui-même mauvais, de voir le sein de sa mère mauvais, comme s'il y avait certains états d'âme, et donc cherche à se venger de sa propre vision, du fait de se voir mauvais, sur le sein de sa mère, qui est la cause de cette vision qu'il projette sur lui, en le mordant. Puis l'enfant a peur d'avoir fait mal au sein de sa mère et que celui-ci se venge encore plus et donc crée et génère un mal-être. Et tout ça, la madame l'a compris dans la tête de l'enfant et dans ses réactions qu'elle a interprétées. Waouh ! Peut-elle en être sûre ? A-t-elle les moyens de prouver ses dires ? Qui contrôle cette somme d'informations qui entre... Attendez. Juste avant de continuer, j'aimerais planifier ce... Enfin, appuyer, souligner ce point-là. On parle donc d'un enfant qui vivrait un mal-être à cause du fait qu'il s'est mis dans la tête que le sein de sa mère est mauvais, donc il a voulu s'y venger en le mordant, et puisqu'il a voulu se venger de ce sein en le mordant, il génère un mal-être en lui. Attends, t'es rentré dans la tête de l'enfant pour savoir tout ça, toi ? Parce que tu le vois pleurer, tu déduis tout ça ? She hears Melanie Klein. Parce que c'est Melanie Klein, j'ai pas le droit d'avoir un avis critique. Mon avis critique basé sur un Sechel Yeshar, peut-être, je dirais même, fondé sur des années de Talmud, où la vision objective, saine, critique est recherchée constamment, me dit, attends, mais réfléchis, mon frère. Je me parle à moi-même. Réfléchis, ça peut être logique. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de preuve. Qui a dit Myanmar ? C'est quoi la source de son... C'est quoi la source de son diagnostic ? Son observation ? Ah, son observation. Eh ben, je peux dire que j'ai une observation différente, alors. Qui contrôle cette somme d'informations qui entre dans la culture narrative de l'humanité sans jamais la corriger ? Qui dit, peut-être que c'est faux, peut-être que c'est différent ? Qui ose émettre quelque chose dans cette culture, dans ce flot culturel qui à la fin se voit dans les articles, dans les théories fallacieuses scientifiques? Combien, par exemple, prenez Margaret Mead, une anthropologue qui a fait son étude sur la vie des Samoa, donc par réaction à une société judéo-chrétienne où les mœurs étaient très très contrôlées, voire, comme elle le dit, étouffée, elle va voir chez les Samoa que leur amour est sans inhibition, qu'ils s'adonnent aux mœurs avec toute nature, tout le monde avec tout le monde, sans vraiment en faire cas de problèmes de fidélité et d'infidélité. C'est une femme qui a influencé des générations entières, donc à peu près vers les 1920, mais que les hippies s'en sont servis en tant que gourou et que maître à penser de cette nouvelle génération. Elle est devenue une star pour des millions de personnes, une référence pour le monde. Écoutez, qu'aujourd'hui nous savons que tous ces travaux étaient faux. Faux, absolument faux. Truqués, faussés, et des gens qui sont morts avec l'idée qu'elle a dit vrai. Toute cette culture étincelante n'a jamais été vérifiée, n'a jamais fait l'objet d'une vérification rigoureuse au pas à pas. Seulement, après, parfois se lèvent quelques chercheurs, quelques vérificateurs pour dire « Là, il y avait peut-être une erreur quelque part, mais leur voix est étouffée dans la cohue des gens qui vont avec cette théorie, même s'ils n'ont aucune vérification de savoir si elle est vraie, en disant « C'est vrai », en disant « Je vais avec ». Parfois, c'est bien trop tard. Le mal est fait. Donc, cette culture, comment vous dire, outre le fait de nous séduire, elle parfois nous conduit droit dans le mur. Elle nous éloigne d'Hachem. Elle nous éloigne de la vérité la plus pure. Alors, il y a des cultures du business aussi. Celles des Forbes Magazine, des Échos, de la Boursorama. Tout un monde où les startups se créent, se rachètent, s'évaluent, où les fortunes s'étalent, les résidences secondaires s'affichent et les coupés sports se customisent. Un monde où l'on signifie que la réussite passe par l'argent et le pouvoir qu'il procure. Les voyages, les belles montres, les moments de détente et les jets privés. Mais là encore, un mode de vie où la spiritualité n'existe pas, n'est jamais mis en avant, ou si peu en tout cas. Pas autant en tout cas que les jets privés et les yachts qui sont mis en avant. Donc, celui qui grandit avec ce flow narratif là, hein, ben il a comme vision que bon, ben, ce que papa m'a dit, Beta Midrash, Avot Ubanim, la Tfila, il y a quelque chose de plus clinquant. Mais c'est quelque chose de plus clinquant qui est faux, fondamentalement faux, puisque ça s'arrête à la matérialité. Ça n'a pas d'essence spirituelle. Alors attention, ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas qu'il faut vivre comme des mormons, loin de toute technologie, loin de toute culture, de se fermer les yeux. mais je dis qu'il faut maîtriser l'effet de la culture mondaine sur nos âmes et souligner la culture juive, celle dont nous parlerons Bezrat Hashem après la pub. Pour cela, restez avec nous, messieurs, dames.
On se retrouve tout de suite pour parler sans tabou avec le Rav Shalom Guenoun.
Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbanim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, emouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent l'halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands. Sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est deux nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box. Avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.
Parlons-en sans tabou avec le Rav Shalom Guenoun.
Pour la dernière partie de notre émission, parlons-en sans tabou. Je vous rappelle que pour nous contacter, c'est radio@torah-box.com. Dans les premières parties de l'émission, nous avons évoqué les dangers de l'influence de la culture mondaine sur notre avodat Hashem, notre Yiddishkeit en quelque sorte, notre façon de voir la vie, vers où nous tendons, vers où nos rêves se meut, vers où nous aspirons, vers où notre regard se dirige. Maintenant, tâchons de comprendre quelle est notre culture, notre propre culture, afin d'essayer de la trouver, de la discerner et de l'enrichir. Alors, il faut savoir qu'à chaque génération, son influence culturelle en Torah. Lors de leur entrée en Israël, le peuple juif fut influencé par l'ère des juges avec Yoshua, Shimshon, puis celle des rois avec David Améler, Shlomo, Yehou, en parallèle des prophètes qui étaient Shmuel, Eliaou, Elisha, où il y avait des bétamides, où il y avait des écoles pour apprendre à être navi, des écoles de prophétie. Où chaque prophète était vu comme quelqu'un d'exceptionnel parce qu'il était imprégné de pouvoir exceptionnel, d'une transcendance avec le divin absolument inouï. Il était apte, il était à même de dire aux gens des vérités insoupçonnées. Et évidemment, comme le Rambam l'exprime, dans ces halachot tshuva, que pour être prophète, il fallait être quelqu'un d'absolument affranchi des affres de ce monde-ci, de la vanité et de la matérialité basse, avoir une connaissance qui était riche et vaste, une concentration, un point de concentration de conscience de l'éternel continu, constant, donc quelqu'un au-delà même âge du genre humain. Quelqu'un très grand, quelqu'un de... Et c'était valable pour les femmes, parce qu'on rappelle qu'il y avait 7 prophétesses dont on a écrit les livres. Abigaël, Myriam, Sarah Imenu, etc. Donc on parle réellement d'une anaga qui était une anaga haute en couleur très 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 élevée, qui pouvait se voir être un comportement aussi chez les femmes. C'est dire la grandeur du peuple d'Israël à l'époque. C'est dire la grandeur de ces hommes. La Gemara ramène dans Megillah qu'il y a 48 livres de prophètes, car ce sont des prophéties qui doivent nous servir la tide de la voix durant toute notre périple dans ce monde-ci. Mais il y avait le double de prophètes qui étaient ressortis depuis. Il y avait le double de prophètes qu'il y avait de gens sortis de 0 à 20 ans d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y avait 1200 prophètes, hommes et femmes, dont les écrits n'ont pas fait garniture, enfin, dont on n'a pas gardé les écrits puisqu'il n'était pas nécessaire la Hattie de Lavo. Mais ils étaient, ces prophètes-là, ils vivaient, ils étaient transcendés par l'Esprit divin. Ils véhiculaient leur message à leur famille, à tout le Klaïssa. Le Gaon de Vilna dit, je peux parler, le Gaon de Vilna, donc un des plus grands sages qu'il soit de nos dernières générations, il disait, je peux parler encore avec un Tana de la Mishnah, je peux avoir une discussion intellectuelle dans laquelle je peux comparer et confronter nos avis avec un des rédacteurs de la Mishnah, c'est-à-dire de l'époque de la fin de la destruction du Second Temple jusqu'à après. Rabbi Akiva était après la destruction du Second Temple. Mais il dit, je ne peux pas, absolument pas parler avec un paysan de l'époque des sages, de l'époque des prophètes. Les gens de cette époque-là vivaient leur judaïsme avec une telle empreinte, un tel engouement, une telle profondeur. Ils étaient en communion avec le divin directement, par les Nevi'im, au travers de leur travail, de leur Avodat Hashem. Si on voit bien, historiquement parlant, le Talmud commence à parler, les Midrash, la Mishnah, commence à parler de l'au-delà, après que le temple soit détruit. Avant, il n'y avait pas ces enseignements qui étaient en flot, disent les sages, les Rishonim. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas besoin. Il n'y avait pas besoin de savoir qu'est-ce qui nous attend dans le monde futur. Quand tu es en train de le vivre, le monde futur, quand dans ton monde-ci, dans ta réalité présente, tu vis aux côtés d'Akadosh Baruch Hu. Les paysans de l'époque, vous croyez que c'était des édentés illettrés, analphabètes? Mais pas du tout. C'était des gens paysans, certes, mais avec un niveau de conscience et de conscience d'Akadosh Baruch Hu et de midot, d'une profondeur inouïe, inimaginable. D'ailleurs, à l'époque, aujourd'hui, nous sommes tous dans un dîme de Tamémet. C'est-à-dire que nous sommes tous dans une considérés comme des gens qui avons touché ou ayant été en contact avec quelqu'un qui a touché un mort. Donc nous avons cette Touma en nous. Nous avons besoin de la Paradouma, des cendres de la Paradouma pour redevenir théorie, pour redevenir pur de cette Touma-là. Disent les Rishonim, comme le Kuzari qui explique exactement en quoi, quel effet ça a sur nous, que ça nous obscurcit l'intellect, ça nous obstrue. Cette Touma-là de laquelle nous sommes porteurs, avec laquelle nous avons vécu et que nous ne connaissons pas d'autres états. Mais à l'époque, quand nous n'avions pas cette Touma en nous, nous étions des gens, mais avec une clarté d'esprit, une profondeur inouïe. C'est ces gens-là qui forment le clan d'Israël. C'est eux, nous, nous sommes les fils de ces gens-là. Bnei Israël, Nevi'im, ou Bnei Nevi'im même. Ils sont les fils des prophètes. Et nous avons aussi l'histoire des chroniques, celle des guerres, au travers de notre Torah, le Tanakh, des interventions divines, au sein d'un peuple composé de millions de personnes. Et le tout approuvé ou authentifié par leurs enfants qui transmettent les événements de génération en génération. Nous avons de la bravoure, de la bravoure morale. Nous avons aussi de l'aventure en nous, dans notre histoire. Nous avons de la vérité, surtout de la vérité, de se battre pour un idéal, de se battre pour sauver la veuve, l'orphelin, de se battre pour répondre aux critères divins, pour se grandir, être des hommes ressemblant plus à des anges qu'à des béhémotes, qu'à des animaux. Ensuite, ce fut la période du temple. Tout le peuple réuni autour de sacrifices, rassemblé à Jérusalem, la sainte, trois fois par an, dans le pur respect des lois de la pureté et de l'impureté, expérience galvanisante d'un peuple uni autour de sa terre, pratiquant son culte. La Gemara dit dans Baba Batra, Daf Rav Bet, que c'est de là où il avait marqué « Ki mitzion tetzé Torah ou dvar Hashem Yerushalem » de Sion, de Jérusalem, en parlant de Sion, vous voulant dire Jérusalem, sortira la Torah, jaillira la Torah. Car tous ceux qui venaient donc de Ashdod, de Ashkelon, voyaient à Jérusalem le travail des Kohanim, le travail des Lévim, les Talmidei Chachamim autour de Jérusalem. C'était un machazé, c'était une vision inouïe. Vous aviez tous les Juifs qui étaient alors à Jérusalem, prêts à rentrer dans le Beth Amikdash à Pessah, par exemple, à Sukkot, amener leur korbanot, voir les 10 miracles qui se présentaient dans le premier temple et les autres dans le second temple, voir la colonne de feu monter au ciel, la colonne de fumée jamais dérogée, quel que soit le vent, voir le feu ne s'éteignant jamais, qu'il pleuve, qu'il glace, qu'il gèle, qu'il vente, rien. Le feu toujours là, le feu des sacrifices, des miracles palpables. Voir tous les Juifs qui s'entassaient au temple et que lorsqu'ils se prosternaient, chacun avait devant lui 2 mètres. Ils venaient de Tzfoufim, comme la Mishnah a dit, et se prosternaient Revachim, ils se prosternaient avec aisance. S'ensuit l'époque de l'exil. Mais dans l'époque de l'exil aussi, nous avions une culture. C'est celle de la Mishnah, puis celle du Talmud, où les maîtres se sont sacrifiés pour l'étude de la Torah dans des conditions surhumaines. La Gemara dit au nom de Rabbi Yehuda Bar Ilaï, 6 se couvraient sous le même tallit et étudiaient la Torah tellement qu'il y avait la misère. Et pourtant, personne n'arrêtait d'étudier la Torah, personne n'arrêtait son culte vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Des milliers de maîtres et des millions d'élèves à approfondir la loi de Moïse. Femmes, enfants, tout le monde connaissait les Midrashim et tout le monde s'interrogeait sur les parachutes. L'honneur était à celui qui connaissait le plus et le mieux. Rappelez-vous, une époque où les pogroms, les inquisitions, où des gens venaient en disant, enfin des gens venaient de loin en disant aux Juifs, convertis-toi sinon meurs. Les Juifs allaient, le sourire aux lèvres, en disant, je me jette dans le feu pour toi mon Dieu. Je te donne comme gage de mon amour, comme témoignage de mon amour, comme preuve, ma vie. C'est-à-dire que on a vu des gens, et ça fait partie de notre culture, de notre mémoire collective, des gens qui ont dit à Kadosh Baruch Hu, qui ont dit à Hachem, la vie sans toi ne vaut pas la peine d'être vécue. La vie sans toi ne vaut pas la peine d'être vécue, mon Dieu. Je t'aime tellement que je t'aime plus que ma vie. Après cela, ce fut l'époque des maîtres médiévaux comme le Rambam, Rashi et le Tosafiste. Autour du Talmud, toujours, et de sa culture, couvrant tous les domaines de la Torah écrite, cette Torah orale, décortiquée, travaillée, innovée, une époque riche en enseignements philosophiques, vulgarisés et mis à la portée de tout le grand public, l'époque de la Marchava, des enseignements dont aujourd'hui encore sont les pierres angulaires de notre culture, une époque riche en innovations thoraïques qui donna naissance à celle des Achronim, le Harizal, qui ouvra les portes de l'ésotérisme, le Shulchan Arour, qui ouvra les portes de la Halakha, plus tard le Baal Shem Tov, celle de la Chassidut. C'est bien qu'à chacun son époque, son influence, son innovation en termes de Torah, celle dont la génération avait besoin. Mais notre culture, c'est aussi autre. La Torah, les Shabbatot, les tables où la famille est toute réunie dans des chants de Shabbat d'allégresse, où on arrête toute melacha, tout travail, et on s'unit à Kadosh Baruch Hu avec des chants. Pareil à Sukkot avec le lulav, les herbes minimes dans lesquelles on essaie de trouver. Donc, c'est de discerner un sens profond, ésotérique à notre avoda, à Pessah, en se rappelant de la Yetziat Mitzrayim, avec papy, avec mamie, avec la famille, avec les enfants. C'est écouter des enfants dire de Dvar Torah Shabbat. C'est se mettre des beaux habits. C'est arranger toute la maison pour accueillir la reine. C'est les tfilot. Notre culture, c'est la culture de la tfila aussi. C'est le fait de pleurer pour le chinour, pour l'éducation de ses enfants, pleurer pour avoir plus de parnassa, pleurer pour avoir une compréhension dans la Torah. C'est pleurer Hachem, c'est parler avec Kadosh Baruch Hu. C'est parler avec Kadosh Baruch Hu au nom de sa Torah en lui disant, Hachem, tu as dit ça dans ta Torah, donne-le-moi, j'en ai besoin, Hachem, je t'aime. Notre culture, c'est un peuple de prophètes qui vit aux commandes d'Hachem, qui vit à côté d'Kadosh Baruch Hu. Et aujourd'hui, nous sommes, messieurs, dames, dans l'ère des yeshivot, celle des kolelim qui apporte une touche renouvelée au peuple d'Israël, en y incluant des dizaines de milliers d'étudiants en Torah qui se coupent du monde, ou plutôt qui se préservent des influences néfastes, plutôt dire ainsi, pour être des réceptacles de la Torah divine. Alors notre culture existe bel et bien, et depuis toujours. Elle est retranscrite dans nos livres, étudiée et approfondie depuis toutes les générations. elle existe dans notre comportement, dans nos minagim, dans le fait de voir nos parents, voir comment ils se comportaient, voir pourquoi ils se comportaient ainsi, révèle des secrets inimaginables. Connectons-nous avec notre patrimoine, nos racines, pour s'élever et élever nos familles et élever le monde qui nous entoure. Merci de m'avoir suivi, messieurs, dames. Je vous rappelle que pour nous poser vos questions, radio@torah-box.com. Je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut. פוקח את העיניים הטרוטות מסיר את האבק מנקה לאט בשקט מחשבות ישנות עולות געגוע בלתי מוסבר לחופש קוראת לך ארץ רחוקה הכל עוד אפשרי אם רק תבחר להשיב את עצמך ממצולות הים את הזמן שעבר את החלום שנמוג בין הסערה אתה מתחיל לרקוד חדשה תלוטף את שערך תזכיר לך שהתקווה לא ברחה לשום מקום היא רק קצת מסתתרת בתוך לבך הכל עוד אפשרי אם רק תבחר להשיב את עצמך ממצולות הים את הזמן שעבר את החלום שנמוג אתה מתחיל לרקוד הכל עוד אפשרי אם רק תבחר להשיב את עצמך ממצולות הים את הזמן שעבר את החלום שנמוג בין הסערה אתה מתחיל ממצולות הים את הזמן שעבר את החלום שנמוג בין הסערה אתה מתחיל לרקוד